les podcasts de Radio Courtoisie. Chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline, notre avenir se joue à Téhéran.
En Occident, le soulèvement des Iraniens a d'abord été passé sous silence, alors que des sites de réinformation faisaient leur travail. Les francophones Iran Résiste ou Femme Azadi, les anglophones Toussi TV, Goldie Gamari, quelques autres encore. Un homme de mon âge, celui du prince actuel, ne peut qu'être étonné de voir la différence entre l'information médiatique massive relatant les événements de 1978-79 et la parcimonie des mêmes médias sur le terrain d'aujourd'hui. Nous ne disposions que de brefs enregistrements audiovisuels réalisés sur place par téléphone. Mais cette différence s'explique par l'idéologie. La révolution islamique de 1979 ne fut pas seulement la mère du terrorisme islamique dans le monde, elle fut également la première expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme. La haine de la monarchie à gauche rencontra les intérêts de l'islamisme dans une entreprise commune d'arracher à l'Iran ce qui lui restait de ses racines historiques. De même chez nous, la République rêve depuis 2 siècles de faire disparaître tout à fait la France des cathédrales. Et ce projet ne peut pas trouver meilleur allié que l'islam, dont le principe même est de renverser la culture chrétienne. Comme pour la révolution iranienne de 1979, on connaît par avance le destin de cette alliance. Après être parvenu au pouvoir grâce au fonctionnement démocratique de la République, les islamistes d'ici chasseront à leur tour les républicains pour installer leur charia. Ça se voit déjà en France quand une candidate islamo-gauchiste au municipal de Saint-Ouen, Madame de Canton, s'était vue refuser l'investiture au motif qu'elle n'adhérait pas aux critères de l'islam dans une ville suffisamment islamisée pour pouvoir se passer d'elle. Comment peut-on être assez aveugle pour ne pas voir qu'il y a un lien étroit entre cette question de la République islamique et ce qui se passe chez nous, en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Belgique-Istan et ailleurs? Tous les événements qui s'y produisent sont liés. Aujourd'hui, un renversement de la République islamique d'Iran serait un signal, sinon dans le monde entier. La Chine, l'Inde, le Japon ne sont pas concernés par cet enjeu, du moins en Occident. C'est la raison pour laquelle, après un temps de censure, dont l'efficience est cependant réduite par l'existence de médias alternatifs, la République, comme elle a toujours fait, donne la parole à des agents doubles intervenant pour réformer le régime des mollahs sans l'abattre. Presque tous les invités iraniens sur nos plateaux de télévision s'y emploient, mettant en avant la cause des femmes, mais discréditant le prince Reza et ses prédécesseurs, de même qu'ils ont pris il y a quelques mois la défense de la République islamique contre Israël. Le républicanisme occidental y trouve son compte, et l'islamisme aussi, au sens où il peut accepter de faire un pas en arrière pour refaire plus tard 2 pas en avant, suivant l'exemple de Lénine. Vu de loin, ce qui se passe en Iran pourrait ne pas intéresser les Français qui jugeraient ce pays trop arriéré depuis trop longtemps sorti de la grande histoire pour les concerner. Mais c'est une erreur. Une bonne part de notre avenir se joue en ce moment à Téhéran, car si la République islamique d'Iran tombe, et si, qui plus est, le prince Reza prend les commandes du pays pour une tâche surhumaine qu'on ne pourrait souhaiter à personne, ce sera chez nous aussi un bouleversement politique et intellectuel considérable. Par une étonnante ironie de l'histoire, on voit dans le pays où est né l'islamisme, les femmes arracher leur voile au péril de leur vie, au moment même où en Occident, les filles et petites filles de la première génération d'immigrés le nouent farouchement sur leurs cheveux, sans parler de tous les autres signes de revendication hostile à la civilisation européenne. Le bouleversement actuel en Iran marquerait la première défaite de l'islamisme dans le monde. De surcroît, la révolte fait apparaître une revendication identitaire. Les Iraniens redécouvrent qu'ils pourraient être avant tout des Perses, comme avait tenté de leur faire comprendre le roi Mohammed Reza au fait de Persépolis en 1972. La fréquentation des mosquées s'est effondrée déjà il y a 3 ans. En février 2023, le mollah Mohammad Abolghassem Douabi, membre de l'Assemblée des experts habilités à nommer le guide suprême, déplorait que, faute de fidèles, 50 000 des 75 000 mosquées du pays avaient été fermées, autrement dit, les 2/3. Il est difficile de savoir vers quel saint se tournent aujourd'hui les Iraniens, puisque quitter officiellement l'islam est puni de mort. Mais il est bien possible que ce demi-siècle de terreur islamiste ait conduit à une prise de conscience majeure. D'autre part, la restauration de la monarchie perse heurterait à angle droit le dogme républicain du sens de l'histoire, disposant que la République est l'aboutissement de l'humanité en chemin vers sa perfection. Mis à part la restauration de la monarchie en Espagne, mais cernée par l'idéologie démocratique, et le retour de Sihanouk sur son trône khmer après un épisode de 9 années républicaines ayant basculé dans l'épouvante, l'histoire du XXe siècle aura été rythmée par une succession désespérante de renversements des trônes partout dans le monde, sous l'effet des idéologies macabres imaginées en Occident depuis 1789. Les événements actuels en Iran, s'ils aboutissent, constitueraient un désaveu de cette involution morbide. On comprend pourquoi ils pourraient ouvrir une porte vers des horizons que l'on croyait perdus. Or, face aux événements, on observe chez nous 3 réactions hostiles au soulèvement iranien. Les islamistes, c'est normal pour des motifs religieux. Les gauchistes, c'est normal pour leur républicanisme. D'ailleurs, les deux, sont alliés. Et les antisionistes que l'on trouve dans ces 2 camps, mais aussi à droite. À l'attention de cette catégorie particulière, il convient de préciser les choses. Quoi que l'on puisse penser en bien ou en mal du sionisme, cette question est ici hors sujet. Il est naturel que l'État d'Israël soit favorable au soulèvement des Iraniens, dans la mesure même où les deux pays vivaient en bonne entente avant la révolution de 1979. En effet, le premier objectif que la République islamique s'est fixé a été la destruction d'Israël, non parce qu'Israël menaçait l'Iran, comment le pouvait-il, mais parce que le nouvel Iran, celui des mollahs, transformait une lutte nationale israélo-arabe, à laquelle le régime persan laïque n'avait eu aucune raison de se mêler, en une lutte religieuse, l'islam contre le judaïsme. Il est donc compréhensible que l'État d'Israël trouve son intérêt dans la chute du régime islamique. De surcroît, avant la révolution islamique, l'amitié entre Israël et l'Iran avait été plurimillénaire. Elle avait commencé avec la prise de Babylone par Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ, quand le roi des rois rendit leur liberté aux Juifs déportés dans cette ville depuis 597 par Nabuchodonosor et les encouragea à reconstruire leur temple à Jérusalem. Cyrus avait été regardé comme un messie, un envoyé de Dieu. D'ailleurs, le prophète Isaïe avait beaucoup insisté sur le fait que leur vrai sauveur était Dieu, Cyrus ne devant rester que l'instrument de la providence. Le prophète, un vrai prophète, celui-là, avait aussi mis en garde contre la tentation de céder à un relativisme religieux induit dans le libéralisme de Cyrus, qui, en rendant à tous ses peuples la liberté d'adorer leur Dieu, présentait un risque de faire oublier aux Juifs qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Depuis cet épisode fondateur de leur amitié, il n'y a jamais eu d'hostilité réciproque tout au long de l'histoire, jusqu'en 1979. Mais aujourd'hui, que les 2 tiers des mosquées du pays ont dû fermer, faute de fidèles, que la mosquée de Téhéran, appelée Rasoul, l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Mahomet, a été incendiée par une foule scandant le nom Iran, Iran, et demain que la monarchie restaurée sera non seulement laïque, mais régnera sur des consciences largement sorties de l'islam, ou bien revenues au zoroastrisme, ou bien passées au christianisme, Israël a toutes les raisons d'agir en faveur du soulèvement pour que le danger d'une guerre finale soit écarté. Un livre d'Emmanuel Razavi est paru, intitulé La pieuvre de Téhéran, montrant comment la République islamique d'Iran, qui ne représente pas ou ne représente plus la population iranienne massivement revenue de ses erreurs d'il y a 50 ans, a réussi à infiltrer, influencer, intoxiquer d'innombrables relais d'opinion en France. On pourrait croire que cette longue et patiente entreprise n'a concerné que les milieux les plus passionnément républicains, enchantés d'avoir assisté à la chute d'une monarchie plurimillénaire prestigieuse et naturellement les milieux islamistes. Mais c'est oublier beaucoup de relais de droite qui cherchent aujourd'hui à invisibiliser le prince Reza Pahlavi auprès de l'opinion française. Par ailleurs, la géopolitique mondiale peut jouer en défaveur des Iraniens quand on pense que la Russie entretient une alliance anti-américaine avec ce qu'elle peut trouver, y compris la République islamique. C'est probablement ce qui explique que, sur nos médias de droite, on ait pu entendre des commentateurs accomplir l'exploit de parler pendant une demi-heure de la situation iranienne sans mentionner une seule fois le nom de Reza Pahlavi et conclure qu'il n'y a aucune alternative à la République islamique parce qu'il n'existe personne pour exercer le pouvoir. Et même que le renversement du régime islamique aboutirait au même chaos qu'en Irak. Entendons-nous bien que ses collègues commentateurs ne croient pas à un retour du prince, en dépit des slogans Javid Shah, vive le roi, est une chose, mais qu'ils aient affecté d'ignorer ces slogans qui accompagnaient toutes les manifestations en est une autre. Ainsi, dans les milieux de droite, par anti-américanisme, parfois aussi par antisionisme. Je m'en tiendrai là tant le terme suivant a été galvaudé dans le passé. La situation interne à l'Iran a été obstinément sous-estimée, la voix du peuple volontairement ignorée. Quant à ceux qui reprochent à la résistance iranienne intérieure d'être aidée par la CIA et le Mossad, je leur rappelle l'histoire de la France sous l'occupation, sur laquelle l'Angleterre parachutait ses agents ainsi que des armes comme ses mitraillettes Sten, fabriquées en grand nombre à la hâte et qui menaçaient de partir toutes seules, selon le témoignage de mon père, alors engagé dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Je ne parle pas pour les islamo-gauchistes, je parle pour les mal intentionnés qui critiquent déjà le fait que Reza puisse revenir de son exil grâce à l'armée américaine. Leur viendrait-il à l'idée de reprocher à De Gaulle d'avoir débarqué dans une Jeep américaine sur une plage de Normandie le 14 juin, une semaine après le déclenchement de l'opération Overlord? Sur la plage de Grez-sur-Mer, c'est un officier anglais, le major Sanderson, qui l'avait accueilli, envoyé par le général Montgomery. Est-ce que cela a privé l'homme du 18 juin de rendre par la suite à la France la place qui lui revenait par les mille puissances? Les choses étant ce qu'elles sont et compte tenu de l'extrême violence avec laquelle cette République enturbannée réprime la population, tous les alliés sont les bienvenus. L'antisionisme va si loin à droite que l'on y a souhaité la victoire de la République islamique, comme s'il y avait un rapport entre cette guerre et le sionisme proprement dit. Partout, y compris dans les médias les plus à droite, l'on a invité des gens de gauche à discréditer l'hypothèse d'une restauration monarchique, en traînant dans la boue le dernier souverain chassé par la coalition, pardon, islamo-gauchiste de 1979. Quitte à raconter n'importe quoi en trichant avec les dates, ce qui ne représente aucun danger, puisque ceux qui les interrogent sont aussi ignares à droite qu'ils le sont à gauche. Il faut rétablir au moins un fait concernant l'autoritarisme du Shah renversé il y a 47 ans. L'Iran partageait alors 2 000 km de frontière avec l'URSS. Aucun autre pays du monde libre n'était dans le même cas. Même la Turquie, alors laïque, n'était pas aussi exposée. Imaginez la France sous la guerre froide avec une frontière allant de Dunkerque à Menton sous la menace soviétique et qu'il faudrait multiplier par deux. Et en son intérieur, un puissant parti communiste tout prêt à collaborer. En Iran aussi, le parti communiste, le Toudeh, était très puissant et rêvait de communiser le pays. À cette menace s'ajoutait un courant islamiste fanatique. En unissant leurs forces, les deux ont triomphé du roi. Puis les Rouges, qui avaient cru tirer leur épingle du jeu, ont été rapidement écrasés à leur tour. D'où, après les Blancs, une deuxième vague d'exilés chez nous, les Rouges, qui encombrent aujourd'hui nos médias. Alors en effet, pour se défendre, la monarchie avait mis sur pied une police très sévère, la SAVAK, chargée d'éradiquer ce mal qui par la suite s'est répandu dans le monde, jusqu'à chez nous désormais. Ce n'était pas démocratique, non. C'était une affaire de survie. Pourtant, même cet autoritarisme a échoué puisque la révolution a bien eu lieu, hélas. La différence tient à ce que le roi refusa de faire mitrailler le peuple, alors intoxiqué par l'islamo-gauchisme, contrairement à la République islamique qui n'a jamais hésité à le réprimer avec la dernière sauvagerie. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la calomnie se répandre jusque dans des milieux politiques et spirituels qui devraient au contraire souhaiter que le bouleversement actuel aboutisse à la restauration d'une Perse enfin libérée du fanatisme. Les écrevisses, ceux de droite qui deviennent rouges avec la gauche quand ils sont plongés dans le flot bouillonnant de la réalité, me font parfois penser aux volontaires français partis combattre le bolchevisme sous uniforme allemand au moment même où leur pays était occupé par l'armée allemande. C'est pas de combattre le communisme qui était répréhensible, au contraire, on ne pouvait qu'être d'accord avec eux sur ce point, mais le moment en faisait des traîtres à leur patrie. Il en est de même aujourd'hui avec la guerre en Iran. Une partie de notre avenir civilisationnel se joue là-bas, où l'islamisme et l'islamo-gauchisme sont menacés par la possibilité d'un retour du Shah. Quand, de notre côté, les maires de New York et de Birmingham prêtent serment sur le Coran, celui de Londres se prosterne dans la rue entouré de ses coreligionnaires, celui de Saint-Denis, ancienne nécropole royale française, promeut une insurrection dans l'éventualité de l'élection d'un candidat de droite à la présidence de la République, et en attendant invite les fonctionnaires communaux à démissionner s'ils ne partagent pas l'opinion de leur nouveau maître. On pourrait multiplier les exemples. Il est inévitable que nos pays voient leur politique extérieure paralysée, non seulement à cause du processus de remplacement démographique, mais encore par l'alliance idéologique entre la gauche et l'islam. Les rouges et les noirs, disait Reza II, le père de l'actuel, occupaient l'une et l'autre à déraciner le territoire sur lequel ils s'installent. En revanche, il est dommage que certains qui partagent les authentiques valeurs occidentales se joignent au camp ennemi pour des raisons aujourd'hui inopportune. Et ces dérives sont loin d'être marginales. Outre les grandes figures de la droite, il suffit de regarder ou écouter nos médias de droite, où l'on a comparé le guide suprême au maréchal Pétain, brave homme pacifique restant aux côtés de son peuple dans la tourmente, où l'on a même relayé la fausse nouvelle iranienne de la mort de Netanyahou. Déjà, durant la guerre des 12 jours, on y avait invité l'ambassadeur du régime islamique, sans que l'on juge utile au nom du pluralisme, d'inviter également l'ambassadeur d'Israël. Puis une seconde fois, le 23 janvier dernier, en pleine répression sanglante de la population iranienne. Autrement dit, nous tirons sur nos alliés, tandis que nos ennemis tirent sur nous. Situation invraisemblable qui en dit long sur la médiocrité de nos élites de toute nature, politique ou intellectuelle, et sur l'urgence de les remplacer.
C'était Chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline. Notre avenir se joue à Téhéran. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.